40 perd 0,18%. Il est à 3664 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses à Deauville avec l'arrivée du Quintet Plus engagé dans la première arrivée provisoire pour l'instant, 14, 10, 7, 6 et 12. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 octobre 1984, il y a 20 ans tout juste, l'affaire Grégory.
Je me suis vengé, je l'ai mis dans la Vologne. Lui, c'est Grégory, un petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges. Grégory avait disparu à 17h30, son corps a été découvert à 21h hier soir.
D'histoire. Un enfant de 4 ans découvert assassiné dans une rivière, un corbeau introuvable qui revendique le crime, un suspect tué par le père de la victime, et pour couronner le tout, une mère soupçonnée d'avoir tué son propre fils, il y avait de quoi faire du meurtre de Grégory, le 16 octobre 1984, une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières années. Tout s'était aussi conjugué pour faire de ce meurtre une bérésina judiciaire et policière. L'incompétence des enquêteurs et le comportement de certains journalistes qui se sont pris pour des policiers et des justiciers. Comme s'ils avaient pressenti d'ailleurs l'ampleur de cette affaire que cette affaire allait prendre, toutes les rédactions, dès le début, avaient décidé d'en faire la une de tous leurs journaux. France Inter, Patrice Bertin, le 18 octobre 1984, il y a 20 ans, jour pour jour.
Il y a un monstre en liberté à L'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de 4 ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. L'autopsie a confirmé la mort par noyade. Quelques instants après la disparition de l'enfant, l'oncle de la victime a reçu ce terrible coup de fil anonyme. « Je me suis vengé, j'ai tué Grégory ». Tout porte à croire qu'il s'agit d'un sordide règlement de compte familial, un règlement de compte qu'un innocent de 4 ans a payé de sa vie. Sur place, à L'Épanche-sur-Vologne, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert.
Tout le monde est certain ici, à commencer par les parents, que l'assassin est un proche de la famille. La mort de Grégory est en effet l'épilogue d'un drame qui dure depuis 3 ans. Depuis 3 ans, la famille Villemain est torturée par un maniaque, menace anonyme par téléphone, coup de fusil sur la façade du pavillon et j'en passe. Jusqu'à ce dernier appel qui revendiquait l'assassinat de l'enfant.
Jacques Expert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui directeur des programmes de Paris Première, mais on vient de vous entendre, il y a 20 ans, vous arriviez à L'Épanche-sur-Vologne pour couvrir cette affaire, ce meurtre du petit Grégory, comme tout le monde l'appelait à l'époque, et qui aurait aujourd'hui 24 ans. Est-ce qu'en octobre 84, au lendemain du crime, vous étiez conscient de l'importance que prendrait cette affaire, Jacques Expert?
Non. Très franchement, non. C'est-à-dire que, à l'époque, j'étais journaliste, donc, à la rédaction de France Inter. Je m'occupais de faits divers. Je disais qu'on passait, à l'époque, de faits divers en faits divers. Donc, c'était une histoire parmi d'autres. Au départ, en tout cas. Même si les circonstances de l'assassinat en faisaient quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est vrai qu'un enfant découvert, ligoté, noyé dans une rivière, l'histoire du corbeau en faisait un fait divers dès le départ hors du commun. Mais de là à penser que ça aurait pris une telle proportion, que c'était, je sais pas, l'affaire Dominici des années 80, la réponse est non.
Mais justement, comment l'expliquer avec du recul? Je veux dire, il y a eu depuis, il y en avait eu avant aussi, des meurtres d'enfants, parfois aussi sordides. Comment se fait-il que cette affaire, on l'ait encore en mémoire 20 ans après, Jacques Expert?
Déjà, l'affaire est devenue un peu extraordinaire par tous les éléments dont vous avez parlé, c'est-à-dire le côté sacrificiel de la mort de l'enfant, jusqu'à la culpabilité, ce qui a été porté sur la mère de l'enfant. Donc ça a fait un fait divers un peu extraordinaire, qui sortait en tout cas de ce qui se faisait, enfin de ce qu'on pouvait voir habituellement quand il s'agissait de meurtre d'enfant. Mais j'ajouterai à ça que l'une des raisons pour lesquelles on s'en souvient aujourd'hui, c'est que l'affaire a duré très longtemps, et ensuite n'a pas été résolue. Donc ces deux éléments font aussi qu'elle reste encore plus dans les mémoires. Il y a encore des gens que je croise et qui me disent, mais à ton avis, qui a tué le petit Grégory, et ça 20 ans après.
Alors il y avait aussi le rôle des journalistes, hein, qui n'a pas été toujours très très brillant dans certains cas. Beaucoup se sont pris pour des enquêteurs, Jacques Expert, dans cette affaire, et on voulait eux-mêmes, l'instruction pataugeant, voulait eux-mêmes trouver le coupable.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle des journalistes.
On y reviendra, mais de façon générale, est-ce qu'on peut pas dire qu'ils ont d'abord déjà voulu faire mousser l'affaire? On se dit, après tout, c'est ce que certains ont dit à l'époque.
Les journalistes, et j'en étais, donc je peux prendre ma part de responsabilité, même si à France Inter, je pense qu'on a tous eu un certain recul sur cette affaire-là malgré tout, mais enfin bon, j'étais l'un des journalistes sur place, et comme d'autres, j'ai sans doute fait des erreurs de jugement, des erreurs dans des papiers, parce que les informations sont jamais très justes. Le rôle de la presse dans cette affaire a été exorbitant. Et dépassant les limites normales du journalisme.
On y reviendra, Jacques Expert. Mais il y a aussi, bon, le côté épouvantable de ce corbeau qui se manifeste avant même qu'on ait découvert le corps de l'enfant. On l'a entendu dans les informations. Le petit Grégory disparaît vers 17h. On retrouve son corps à 21h. Mais entre les deux, il y a donc ce coup de téléphone à un oncle de Grégory. Hein, j'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la vol. Le chef, faut préciser, c'était le père de Grégory, c'était Jean-Marie Vimain. Il y avait une affaire, tout de suite on s'oriente vers une affaire de famille et de jalousie,
oui,
dès le départ.
Voilà, c'est en tout cas dès le départ, et je dirais même à l'arrivée, c'est forcément une affaire de famille. Qui a fait le coup, ça c'est difficile, qui a tué Grégory, c'est difficile à le savoir, même on ne le sait pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui ont des convictions, souvent contraires, mais en tout cas dès le début et encore aujourd'hui, on sait que le coupable est dans le cercle familial.
Alors, ce coupable, c'est aussi très vraisemblablement, même quasiment sûrement, ce corbeau qui ne se manifeste pas que par téléphone, mais aussi par lettre. Hein, cette lettre, notamment, « J'espère que tu mourras de chagrin », lettre adressée à Jean-Marie Vimain, « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con. Hein, » C'est épouvantable. Je rappelle que, pourquoi il l'appelle le chef? Parce qu'il est contremaître, parce que le succès Jean-Marie Vimain fait des jaloux dans la région.
C'est ce qui se dit. Peut-être pas autant qu'on a pu le lire ou le dire. Je pense oui et non. Enfin, il n'avait pas non plus une réussite sociale, il ne roulait pas en BMW dans la Vologne. Il avait, si je me souviens bien, une R12, une voiture comme ça. Donc il était, c'était relativement une réussite modeste. Donc ce côté réussite aussi, vous savez, la presse en a été l'un des artisans de ce côté réussite. C'est-à-dire a construit la réussite de Jean-Marie Vimain pour l'opposer à la non-réussite de beaucoup de gens qui étaient dans la famille. Il n'avait pas si réussi que ça. Il avait un petit pavillon, une petite voiture, une petite vie et une petite profession et un salaire relativement modeste. Donc c'était pas un grand chef si c'était un chef.
En tout cas, les lettres du corbeau font que les premières expertises graphologiques ces lettres ont attribué un premier suspect arrêté quelques jours à peine après la découverte du corps de Grégory. France Inter, Patrice Bertin, le 5 novembre 1984.
À l'heure où je vous parle, le meurtrier présumé du petit Grégory Vimain est sous les verrous. Il s'agit de Bernard Laroche, un cousin de la famille. Les gendarmes l'ont arrêté en fin de matinée à son travail. Bernard Laroche clame son innocence, mais il a été inculpé d'assassinat et aussitôt emprisonné. Sur place, dans les Vosges, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert.
Bernard Laroche sort du palais de justice en bas de travail, les menottes au poignet. Direction la prison de Nancy, il vient d'être inculpé d'assassinat. Bernard Laroche, les larmes aux yeux, hurle son innocence.
Bernard Laroche, pourquoi vous avez fait ça?
Je n'ai rien fait du tout.
Vous êtes innocent?
Oui. Je suis innocent.
Je suis innocent.
C'est le témoignage de Muriel, sa nièce de 15 ans, qui l'a trahi.
Bernard Laroche, Jacques Expert, c'était donc un cousin de Jean-Marie Vimain, trahi par sa propre belle-sœur. C'est vraiment extraordinaire, tous les rebondissements de cette affaire, ça c'est le premier. Sa belle-sœur Muriel, qui va d'ailleurs se rétracter.
Oui, je voudrais, juste avant de répondre à votre question, il y a, dans ce qu'on vient d'entendre, quelque chose de, je trouve, d'extraordinaire avec le recul. C'est qu'il y a quelqu'un qui sort menotté du palais de justice et qui répond aux questions des journalistes.
Oui.
Ça c'est... ça démontre bien dans quel univers médiatique se passait cette affaire. C'est-à-dire que les journalistes ont pu, à la sortie du palais de justice, alors qu'il venait d'être inculpé de l'assassinat, interroger celui qui est inculpé. Je trouve ça extraordinaire aujourd'hui en réentendant ce témoignage. Alors, pour en venir à votre question, effectivement, c'est sa nièce de 15 ans, sa belle-sœur de 15 ans, qui est interrogée par les policiers, donne le nom, enfin dit qu'elle est allée chercher le petit Grégory avec Bernard Laroche. Et ensuite, donc ça se passe en fin de semaine, je pense que là il y a l'une des nombreuses erreurs de procédure, c'est que le juge Lambert aurait dû l'interroger tout de suite, puisqu'elle fait ses aveux aux gendarmes. Le juge Lambert décide de partir en week-end et laisse passer ce long week-end, enfin ce week-end, et ne la réinterroge que le lundi. Donc pendant deux jours, elle a le temps de maturer un peu, elle maintient quand même son témoignage le lundi, et c'est ensuite que Bernard Laroche est arrêté.
Vous parlez d'erreurs dans l'instruction, donc du juge Lambert. Il a été très critiqué, il faut rappeler que c'était un jeune juge qui débarquait un petit peu, mais très sûr de lui, alors qu'il a pris des points de vue tout à fait contradictoires.
Il a été critiqué, et je pense, dans le fond, après, il ne s'agit pas de juger à personne, mais dans la conduite de son instruction, critiquable. Il a fait des erreurs de juge d'instruction. Alors après, on peut dire qu'il était jeune, qu'il avait 33 ans, qu'il était tout seul, c'est vrai qu'il avait énormément de dossiers à traiter en même temps, mais il a manqué, je dirais, pour le moins de rigueur, et surtout... Et la rigueur à la fois dans la façon dont il a mené son instruction, mais de rigueur dans ses relations avec les enquêteurs. Un juge d'instruction, c'est lui qui dirige l'enquête en réalité. Or, que ce soit à l'époque des gendarmes ou ensuite par les policiers, c'était les gendarmes et les policiers qui dirigeaient l'enquête, et non pas lui. Donc ça, c'était la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est dans ses relations avec les avocats, où là encore, il n'avait pas la main. Et la quatrième erreur, c'est aussi dans ses relations avec les journalistes, où là encore, les journalistes... Enfin, moi, j'ai assisté à des choses, à des moments, je peux vous en citer deux rapidement, un dîner auquel j'ai assisté, où l'un des journalistes, après l'arrestation de Bernard Laroche, a lu un poème à la gloire du juge Lambert. Ça paraît extraordinaire, mais c'est la vérité. Il a sorti un papier, je me souviens plus des rimes, mais un poème en vers à la gloire du juge Lambert. Et la deuxième, un peu plus tard, quand le journaliste d'un grand hebdomadaire, ça je l'ai entendu à travers la porte vitrée, a exigé l'inculpation de Christine Villemain en disant « Quand est-ce que tu vas l'inculper, cette salope ?»
C'est incroyable, cette
donc pour vous dire que
en plus avec une enquête quand même qui était bâclée dès le début, on n'a pas fait dans l'autopsie, on n'a pas vérifié si il y avait de l'eau de la Vologne dans les poumons du petit Grégory, si bien qu'on ne sait pas s'il est mort avant ou après avoir été jeté dans la Vologne. Il y a eu des pièces à conviction qui ont été rendues inutilisables. Enfin bref, faute de preuves en tout cas, et alors que il commence justement à soupçonner Christine Villemain, le juge Lambert décide de libérer Bernard Laroche après 3 mois de prison. Et alors que Jean-Marie Villemain reste persuadé de sa culpabilité et décide de faire justice lui-même, France Inter, Pierre Veil, le 29 mars 1985.
Plus de 5 mois après l'assassinat du petit Grégory Villemain, cette affaire a connu aujourd'hui un rebondissement tragique. Le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, a abattu d'un coup de fusil Bernard Laroche, son cousin. Sur place, dans le département des Vosges, le récit de notre envoyé spécial, Jacques Expert.
La maison neuve de Bernard Laroche est construite à l'écart, en bordure du bois. C'est là que se cache Jean-Marie Villemain. Il attend le retour de Laroche, qui quitte son travail à 13h. Quand il descend de voiture, Jean-Marie le tue à bout portant. Jean-Marie prend aussitôt la direction d'Épinal. Il retrouve sa femme hospitalisée depuis dimanche. Il lui annonce qu'il vient de tuer Laroche.
C'est parce qu'il lui a pris. Il m'a dit « J'ai tué Laroche ». Je ne croyais pas. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué Laroche. Je ne pensais pas du tout qu'il allait faire ça.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit en partant ?
Il m'a dit « Je t'aime beaucoup. Pense à moi, pense au petit. Attends-moi. » Il m'a dit, fallait que je le fasse, qu'il m'a dit, comprends-moi, il fallait.
Et c'était Christine Villemain au micro de Laurence Lacour d'Europe 1. Vraiment un témoignage absolument saisissant qui a été enregistré par Laurence Lacour, qu'on vient d'entendre. Christine Villemain, donc, devant laquelle le mari est venu lui dire « J'ai tué Laroche ». C'est vraiment pathétique, ça. Et pourtant, c'était prévisible. Je crois que beaucoup de journalistes savaient qu'après la libération de Laroche, Villemain risquait de le tuer.
C'est-à-dire, les époux Villemain vivaient dans de la paranoïa, en tout cas, une espèce d'obsession de la culpabilité de Bernard Laroche. Donc, ils ont, à plusieurs reprises, envisagé d'aller tuer, de la façon dont Jean-Marie l'a fait un peu plus tard, d'aller tuer Bernard Laroche, notamment un matin où à 5 heures, Ils ont été empêchés de le faire par un journaliste de Paris Match. Et finalement, il a passé à l'acte pendant que sa femme était en prison.
Il était à l'hôpital.
Oui. Il était d'autant plus pris dans cette obsession que de plus en plus les rumeurs de culpabilité autour de sa femme montaient. Donc ça le rendait encore plus fou. Et donc il est allé tuer dans la Roche ce jour-là.
Oui, parce que si elle est à l'hôpital au moment où il tue son cousin, ou Jean-Marie Villemain tue la Roche, c'est parce qu'elle a eu un malaise. On commence à distiller l'idée, notamment il y a un journaliste dont on taira le nom, sur une antenne concurrente dont on taira aussi le nom, qui distillait des informations qui lui étaient données par la police. La police était chargée de l'enquête à ce moment-là, et on commence à distiller des informations comme quoi Christine Villemain, eh bien son écriture serait celle du corbeau. Il y a aussi d'autres indices, des cordelettes, la découverte de cordelettes identiques à celles qui avaient été utilisées pour, attacher l'enfant Grégory avant qu'il soit jeté dans la Vologne. Témoignage également de trois femmes qui auraient vu Christine Villemain à la poste le jour où le corbeau avait envoyé une de ses lettres. C'est épouvantable. Et là encore, les journalistes, il y en a un au moins qui a été, plusieurs peut-être même, qui ont été manipulés pour distiller ces informations avant l'arrestation de Christine Villemain.
Ils n'ont pas, pour moi, été manipulés. C'est pire encore. Je crois que certains journalistes ont été des auxiliaires de justice volontaires. C'est-à-dire qu'en échange d'informations privilégiées, ils lâchaient l'information que souhaitait la police pour alimenter la rumeur de la culpabilité de Christine Villemain.
Mais à quelle fin, Jacques Expert?
Tout simplement parce qu'eux-mêmes étaient persuadés de la culpabilité de Christine Villemain, et ils travaillaient presque objectivement avec la police ils avaient les meilleures informations par cette collaboration. C'était de la collaboration.
Mais quel est l'intérêt de la police à distiller ces informations? C'est faire pression sur Christine Villemain? La faire craquer?
À la fois sur elle et sur l'opinion publique.
En tout cas, justement, c'est après la diffusion de ces premières informations que Christine Villemain est inculpée. Écoutez les informations d'Antenne 2 et de France Inter le 5 juillet 1985.
Christine Villemain, la mère du petit Grégory, inculpée de l'assassinat de son fils par le juge d'instruction, elle a été immédiatement écrouée.
Christine Villemain était encore sans entrave lorsqu'elle s'est présentée devant le juge Lambert au palais de justice d'Épinal. Il était 16h30. Deux heures plus tard, elle était inculpée d'homicide volontaire sur la personne de son fils Grégory et écrouée à la prison de Metz. Inculpée et non pas coupable, il n'est pas superflu de le rappeler dans cette affaire si fertile en coup de théâtre et en accusation sans preuve.
Maître Garot, avocat de la famille Villemain, vient tout juste de répondre aux journalistes qui se pressent devant le palais de justice d'Épinal. Maître Garot, au micro de Claudine Cunha de Radio France Nancy.
Au moment où cette mère, portant en son sein le frère ou la sœur de Grégory, est jetée en prison, l'irréparable vient d'être commis. Les pressions d'une certaine presse ont été plus fortes que les procès-verbaux de gendarmerie et les accusations de Muriel.
Et c'était l'inculpation, à l'époque on ne disait pas encore mise en examen, de Christine Villemain le 5 juillet 85, le deuxième rebondissement après l'assassinat de Bernard Laroche dans cette affaire. Mais alors vraiment, là c'est une mère que l'on soupçonne d'avoir tué son propre fils.
Oui, je ne veux pas dire, là c'est vraiment l'accusation la plus terrible qui soit. Donc,
Et quelle est la responsabilité? On a entendu l'avocat donc de Christine Villemain, Maître Garot, qui disait qu'il en voulait aux journalistes. C'est la conséquence d'une certaine presse, dit-il. Pourquoi?
Je crois que votre question est assez difficile. Je crois que Maître Garot était aussi quelqu'un, un avocat habile. C'est aussi une façon de défendre Christine Villemain, de mettre sur le dos de la presse le fait qu'elle ait été inculpée. Mais c'est vrai, moi je le pense, sincèrement.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un journaliste déjà qui demande à Lambert, quand est-ce que tu vas arrêter cette salope? Enfin, c'est quand même insensé, ce parti pris contre elle.
La presse a poussé à l'inculpation, une certaine presse a poussé à l'inculpation de Christine Villemain, et dans le dossier, notamment dans ce dossier-là, dès que la police a pris ce dossier en main, j'ai aussi la conviction que ce dossier a été mené essentiellement à charge. C'est-à-dire tous les éléments, quand on veut tuer son chien, on trouve qu'il a la rage, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il suffisait qu'elle ait fait un tour dans le jardin à ce moment-là pour qu'elle ait donné, pour qu'elle ait enlevé son enfant. Vous voyez, tout était à charge contre elle, alors qu'il y a énormément d'éléments également à décharge dans cette affaire-là. Et à partir du moment où il y a eu cet acharnement sur la, parce que je pense qu'il y a eu de l'acharnement sur, pour prouver la culpabilité de Christine Villemain. À partir de là, tout a été faussé et accéléré par la presse. Donc Maître Garraud a à la fois raison de le dire, après il a beau jeu de le dire, évidemment, puisque c'est son, il est dans son rôle de défenseur.
Parce qu'il y a quand même ce... Alors là, c'était alors le 17 juillet, c'est à peine une dizaine de jours après l'arrestation de Christine Villemain, il y a cet article absolument insensé, là c'est plus des journalistes, mais c'est dans un journal, Libération, Marguerite Duras, qui sort cet article, sublime, forcément sublime Christine V, c'est-à-dire qu'elle trouve à la fois ce crime génial et qu'elle soupçonne Christine Villemain de l'avoir commis.
Oui, et là c'est vraiment du délire, on peut le dire, du délire intellectuel en fait, hein, parce que cette affaire, elle ne l'a vécue elle qu'à travers ses propres fantasmes, je pense, sa propre lecture épisodique de la presse, et elle s'est forgée un personnage de, elle a forgé un personnage de roman à travers ça, c'est-à-dire pour avoir été là dans la Bologne quand elle était présente, elle est restée une journée.
Vous l'avez vu vous-même, elle est arrivée. Il ne s'agit pas de faire une enquête à proprement parler, mais de donner ses impressions, si j'ai bien compris.
Elle est arrivée le soir, elle était prise en main par le journaliste de Libération, et le lendemain, ils ont fait le tour du propriétaire, je dirais, c'est-à-dire les principaux endroits où la Bologne, la maison des Villemain, etc. La visite a duré quelques heures, elle est rentrée à Paris, et forcément sublime, a été écrit après, quoi. Donc elle est arrivée avec une sorte de conviction, elle est juste venue s'imprégner des lieux pour affirmer, mais intellectuellement, sa conviction.
C'était le titre de l'article, mais elle laissait entendre, grosso modo, que Christine Villemain était une espèce de Madame Bovary qui s'ennuyait, victime, disait-elle aussi, écrivait-elle, je parle de Marguerite Duras, d'un mari peut-être brutal. C'est quand même incroyable de pouvoir asséner ces choses-là dans un grand quotidien.
C'est du pur fantasme.
Oui.
Du fantasme total. Donc effectivement, après, c'est Marguerite Duras. Donc il y a toujours l'excuse d'un journal comme Libération de dire c'est presque une œuvre littéraire qu'elle a fait. Quoi. Ça, c'est la seule justification admissible.
Alors, Christine Villemain ne va passer que 11 jours en prison, tandis que son mari, lui, est condamné en revanche à 5 ans de prison, dont un, je crois, avec sursis. Il en est sorti en 87. C'était pour le meurtre, bien sûr, de Bernard Laroche.
Il n'a pas fait 5 ans de prison, d'ailleurs, en réalité. Il est remis
en 87, oui. Mais le juge Lambert va être dessaisi de l'affaire. Il y aura deux autres juges qui vont s'en charger. Ça va durer quand même 7 ans jusqu'à un arrêt dont on parlera en 93, mais ça a été très long à ce moment-là et on n'en parle pratiquement plus. En tout cas, cette fois-ci, la justice ne laisse plus transpirer d'informations. Le secret d'instruction est bien gardé avec les successeurs du juge Lambert.
En plus, l'instruction s'est déplacée. Elle s'est déplacée à Dijon, donc loin du ramdam ou de la médiatisation pure qui était à Épinal. Donc c'était pas les mêmes journalistes, etc. Et puis je pense aussi qu'il y avait, bon, il y a eu la volonté de la justice de couper les ponts avec, c'est-à-dire de mener une vraie instruction, c'est-à-dire de couper les ponts avec la presse, d'avoir des relations normales avec les avocats et avec les enquêteurs. Et donc il y a une volonté de rationaliser un peu l'instruction. Donc les choses se sont passées, il y a eu une instruction correctement menée à partir de ce moment-là.
Et jusqu'au 3 février 1993, France Inter, Patrice Bertin.
Innocente, forcément innocente, comme aurait pu l'écrire Marguerite Duras, Christine Villemain est aujourd'hui blanchie, lavée de tout soupçon. 8 ans après l'assassinat de son fils Grégory, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu prononcé ce matin même par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon. Dans cette terrible affaire, plus personne n'est suspect et peut-être ne connaîtra-t-on jamais la vérité. À l'Épanche sur Vologne, village sorti de l'anonymat le 16 octobre 1984, une page est maintenant tournée. Jacques Expert.
Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Les gens étaient traumatisés de cette affaire. Je crois qu'ils ont hâte que ça se termine, qu'enfin ils auront la paix.
Quelques-uns plaignent le long calvaire de Christine Villemain, mais pour d'autres, le doute n'a pas disparu et ce n'est pas le non-lieu d'aujourd'hui qui le dissipera.
On dit disculpé, j'en suis pas si sûre. C'est quelque chose qui doit suivre tout le temps. Il y a toujours un doute tant qu'on n'a pas trouvé le coupable.
Et il y aura toujours un doute puisque 11 ans après cette archive de 93, 20 ans après le meurtre de Grégory, on ne sait toujours pas qui est le coupable, Jacques Expert. Est-ce qu'on le saura un jour?
Là, c'est la... Moi, en tout cas, j'espère qu'on le saura un jour, parce que c'est quand même une affaire qui a vraiment marqué ma carrière de journaliste. Et je suis toujours... J'aimerais savoir qui a tué le petit Grégory. Est-ce qu'on le saura? Honnêtement, je sais pas. Ça peut venir peut-être. La seule chose qui peut permettre à cette affaire d'éclore, c'est un témoignage tardif de quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des complices dans cette affaire. Enfin, je pense que les... L'une des thèses, c'est qu'il y a des complices dans cette affaire, des gens qui étaient au courant et finalement lâchent la vérité au dernier moment. C'est le seul espoir, je pense, qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'y aura pas d'éléments nouveaux. Je ne vois pas comment il peut y avoir d'autres éléments nouveaux que d'aveux de gens qui ont participé de près ou de loin à cette affaire.
Parce que vous me disiez que 20 ans après, on venait encore vous voir pour vous dire, mais qui est, à votre avis, qui est encore le coupable? Il y a toujours, en plus, cet épouvantable soupçon qui pèse sur la mère de Grégory, malgré le long lieu, malgré la faiblesse des charges contre elle et même l'absence de charges réelles contre elle. Et un couple qui vit dans l'Essonne, replié de tout, et qui est resté très solide dans cette affaire.
Mais vous imaginez une femme, si elle est innocente, comme la justice l'a déclaré, le calvaire qu'elle a vécu et qu'elle continue de vivre aujourd'hui, avec le souvenir d'un fils qui aurait 24 ans aujourd'hui, et d'avoir été autant salie qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Il y a encore, je pense, des gens qui sont persuadés, quand ils la croisent du supermarché, tiens, c'est Christine Villemain, tiens, c'est elle qui a tué son enfant. Ouais. Je voudrais juste faire un parallèle rapide avec l'affaire Doutreau. Je lisais dernièrement un papier où les gens qui ont été disculpés dans l'affaire Doutreau, ils subissent le regard de leurs voisins et qu'ils les regardent comme des pédophiles, toujours. Donc, vous imaginez Christine Villemain.
Responsabilité, puisque vous parlez Doutreau des journalistes, de la justice, on a l'impression qu'au fond, cette affaire qui aurait pu être riche en enseignements pour la justice, pour la presse, ne l'a pas été, cette affaire Doutreau, 20 ans après l'affaire Villemain.
Malheureusement, je pense qu'il y aura tout plein d'affaires comme ça, et pas seulement des affaires judiciaires, où tout le monde fait son autodiscipline après, qui remet tout en question, et les mêmes travers reprennent. Enfin, il y a eu l'affaire Villemain, je peux vous dire que depuis l'affaire Villemain, sur le traitement en Irak, pendant les événements en Roumanie, etc., enfin, il y a eu tellement d'affaires où les choses sont pas bien maîtrisées. Je crois que la précipitation est l'une des raisons aujourd'hui, la précipitation de la presse, la précipitation de la justice, c'est cette précipitation-là qui, à mes yeux, est la vraie raison de toutes les erreurs. Et il y aura toujours de la précipitation. Il y a de plus en plus de précipitation. Donc, il y aura toujours des erreurs.
Merci, Jacques Expert, de nous avoir rappelé des souvenirs de cette affaire.
Merci de m'avoir rappelé ces souvenirs aussi.
Vous avez été le correspondant, que vous avez suivi pour France Inter il y a déjà 20 ans. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Armstrong et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un complot spectaculaire, mais à une époque beaucoup plus reculée, à l'époque de Louis XIII et de Richard.